France Culture.
Journal avec Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Deuxième nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine. Plusieurs dizaines de drones et de missiles ont été lancés par la Russie, faisant au moins 12 morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande aux États-Unis et aux Européens de faire preuve de détermination face à Moscou, qui doit rendre dans les prochains jours ses propositions pour une fin de conflit. 9 enfants d'une même famille tués dans un raid israélien à Khan Younes dans la bande de Gaza, suscitant l'indignation bien au-delà de l'enclave palestinienne, alors que des dizaines de familles gazaouis ont été rayées de l'état civil depuis le début de la guerre. Une palme à la valeur politique. Le jury du Festival de Cannes a décerné la palme d'or à Jafar Panahi hier soir pour un simple accident. Le cinéaste iranien qui défie le pouvoir de Téhéran a souhaité adresser un message pour la liberté à tous ses compatriotes en Iran, où Jafar Panahi doit rentrer aujourd'hui. Puis nous reviendrons en longueur sur ce palmarès cannois et les enseignements à tirer de ce festival avec notre invité Frédéric Mercier, critique de la revue Positif et membre du jury de la Caméra d'Or. L'Union européenne appelle ce midi à exercer sur la Russie la plus forte pression internationale. Après une nouvelle attaque aérienne massive la nuit dernière, l'armée ukrainienne dit avoir abattu quelque 367 projectiles, missiles et drones lancés en grande partie sur Kiev. Des bombardements qui ont fait au moins 12 morts dans la capitale ukrainienne. Les services d'urgence ont décrit une nuit de terreur. Et Agathe Mahué, une nouvelle fois, Volodymyr Zelensky appelle les Occidentaux à faire pression sur la Russie pour la contraindre à cesser ses attaques.
Oui, car chacune de ces attaques que le président ukrainien qualifie de terroristes, chacune constitue selon lui une raison suffisante pour de nouvelles sanctions contre la Russie. Et pour cela, en effet, Volodymyr Zelensky en appelle une nouvelle fois à tous ceux qui, dans le monde, veulent la paix. Le monde est peut-être en week-end, mais la guerre continue, dit-il encore, rappelant que le silence de l'Amérique et des autres ne fait qu'encourager Poutine. Nuit de terreur sur Kiev notamment, les habitants sont retournés massivement dans les abris, dans le métro. Alors que c'est un réflexe que l'on avait un petit peu perdu ces derniers temps, même si la menace ici est régulière, on vient de vivre en effet 2 nuits consécutives de forts bombardements. Des enfants ont été tués dans l'ouest du pays, des bâtiments détruits partout, près de 300 drones au total sur l'Ukraine. Et ces attaques semblent peu compatibles avec les promesses par la Russie de règlement du conflit, car c'est à l'issue de ce week-end durant lequel sont échangés massivement des prisonniers en ce moment encore, que le Kremlin est censé présenter les conditions d'un accord pour terminer cette guerre.
Effectivement, un vaste échange de prisonniers de guerre qui se poursuit aujourd'hui. 303 captifs de chaque camp ont été échangés malgré les attaques aériennes. Donc, en Russie, le ministère russe de la Défense indique que 95 drones ukrainiens ont été abattus la nuit dernière. Les frappes israéliennes se poursuivent-elles sur la bande de Gaza? Des frappes nocturnes là aussi dans le centre et le nord du territoire palestinien assiégé, qui ont fait au moins 8 morts, dont une femme enceinte, d'après la défense civile de Gaza, selon qui d'autres personnes restent disparues sous les décombres. Un drame de plus, donc, après l'annonce de la mort de 9 enfants d'une même famille. Leur mère, pédiatre elle-même, était à l'hôpital quand sa maison a été bombardée vendredi soir à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Son mari est entre la vie et la mort. Le seul enfant qui a survécu est lui gravement blessé. Une tragédie qui est loin d'être un cas isolé, comme nous l'explique Amira Swilem depuis Ramallah, en Cisjordanie occupée.
Ils avaient entre 6 mois et 12 ans. Une fratrie de 9 enfants fauchés en une frappe. Ali El-Najjar, leur oncle, ne s'en remet pas. Il témoigne au micro d'un journaliste palestinien.
Pourquoi la maison de mon frère a été bombardée? Pourquoi ses enfants ont-ils été assassinés? Il est médecin, mais c'est peut-être pour ça qu'il a été visé. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu supporter la vision choquante de mes neveux brûlés. C'est au-delà des brûlures. Leur corps était grillé, on ne peut distinguer ni visage, ni dos, rien. Certains avaient les mains et les jambes déchiquetées.
Des corps pulvérisés, au point que la famille dit ne pas être en mesure d'identifier précisément les cadavres des enfants. Une tragédie qui a suscité l'émotion de médecins du monde entier. D'autant qu'en mars déjà, l'armée israélienne avait exécuté 14 secouristes palestiniens dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune. Israël dit enquêter sur la frappe de vendredi. Depuis le 7 octobre 2023, ce sont des centaines de familles palestiniennes qui ont été complètement rayées de l'état civil, selon la défense civile de Gaza. Une estimation provisoire, car de nombreuses d'entre elles sont toujours sous les décombres.
Amira Souilem et l'armée israélienne indiquent avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti en fin de matinée dans plusieurs localités, dont Jérusalem. Un simple accident et donc la palme d'or de ce 78e festival de Cannes. Réalisé par le cinéaste iranien Jafar Panahi, cette œuvre tournée clandestinement relate l'enlèvement d'un geôlier par ses victimes confrontées à un dilemme sur le sort à lui réserver. Un film qui dénonce l'arbitraire des autorités iraniennes et inspiré par l'expérience du cinéaste en prison Jafar Panahi qui a été incarcéré à deux reprises en Iran en 2010 et 2022. Pour autant, le lauréat ne craint guère son retour au pays, il doit rentrer en Iran dès aujourd'hui. Bonjour Savoj Ghazi.
Bonjour.
En direct de Téhéran pour France Culture. Alors quel accueil vont réserver les autorités iraniennes aux cinéastes ?
Alors pour l'instant, il n'y a aucune réaction de la part des autorités. Donc après l'attribution de la palme d'or à Jafar Panahi, en revanche, plusieurs médias conservateurs ou ultra-conservateurs ont dénoncé un prix politique, comme cela a été le cas par le passé. Par exemple, lorsqu'il y a eu par exemple le prix Nobel, qui a été attribué donc à Narges Mohammadi, ou d'autres prix attribués à des cinéastes ou des acteurs ou actrices attribués non seulement en France, mais aussi dans d'autres festivals en Europe. Ces médias dénoncent un prix politique. On ne sait pas quel sera l'accueil qui sera réservé à Jafar Panahi. Son avocat a affirmé qu'il allait rentrer en Iran. Il a été condamné en 2010 à 6 ans de prison et 20 ans de privation de toute activité dans le cinéma, mais aussi dans les médias, mais aussi de quitter le territoire iranien. Donc on doit attendre maintenant de voir quel sera donc l'accueil qui sera réservé. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires, non seulement pour son film, mais aussi les déclarations qu'il a faites en France avant et après l'attribution de la Palme d'Or pour son film.
Savoj Ghazi, en direct de Téhéran pour France Culture. Et bonjour Frédéric Mercier.
Bonjour Julie.
Critique pour la revue Positif et membre du jury de la Caméra d'Or lors de ce festival de Cannes. Alors à l'image de cette palme d'or, cette attaque frontale contre la République islamique, la Caméra d'Or, trophée du meilleur premier film, revient cette année au réalisateur irakien Hassan Hadi pour The President's Cake. C'est donc l'ensemble du palmarès qui a été très politique lors de cette édition.
En tout cas, je pense qu'on a voulu décerner évidemment un prix qui était un peu politique avec ce film. C'est le premier film irakien à concourir au festival, The President's Cake. Et on a vu beaucoup de films qui traitaient de politique cette année. Mais je crois que à la fois, on a voulu, avec ce film-ci et également avec la mention spéciale qu'on a remis à My Father Shadow d'Akindola Davis, qui est aussi un film nigérian, qui se passe dans les années 90 à Lagos. On a voulu à la fois, évidemment, privilégier un geste politique, montrer des cinémas qui sont peu montrés, des territoires qui sont peu cartographiés par le cinéma, habituellement. Mais on a voulu également couronner, je crois, des gestes esthétiques qui nous ont marqués. Et on a été tous très séduits, on va dire, par les propositions de cinéma aussi qui nous ont été faites.
Vous avez donc visionné 28 films sélectionnés pour la Caméra d'Or au sein du jury présidé par la réalisatrice et scénariste italienne Alice Rohrwacher. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette sélection ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est la question des enfants. Alors, il faut expliquer que la Caméra d'Or, c'est un prix à des premiers films sur toutes les sélections confondues. C'est-à-dire que vous avez à la fois la sélection officielle du Festival de Cannes, mais vous avez également les sélections parallèles, c'est-à-dire la quinzaine des cinéastes, mais également la semaine de la critique. Et ce qui nous a marqué, c'est que, quelles que soient les sélections, j'ai trouvé que les enfants étaient extrêmement présents. Alors, on avait des jeunes cinéastes qui parlaient d'enfance. Donc, vous imaginez bien que tout de suite, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est tourné véritablement vers la question de l'avenir, de ce qui se transmet et de ce qui se construit demain. Et j'ai eu l'impression que les enfants s'en prenaient plein la tête cette année. C'est-à-dire qu'ils étaient victimes des caprices du monde d'hier, des caprices du monde d'aujourd'hui, des guerres, de la maltraitance. C'était extrêmement présent, mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que je les ai trouvés aussi extrêmement combatifs, c'est-à-dire qu'ils réagissent, ils essayent de se battre dans ce monde-là, et c'est en tout cas ce qui, à mon avis, fait le lien entre les deux films que nous avons primés hier, President's Cake et My Father Shadow, et ce qu'on a retrouvé dans la plupart des compétitions. Ça, c'est la première chose en termes, je dirais, thématiques. Et donc ça raconte évidemment quelque chose sur l'avenir, c'est là que je rejoins votre question politique, c'est-à-dire des cinéastes qui veulent, je pense, montrer qu'il y a une possibilité encore de se battre, ou en tout cas de reprendre les armes. Mais ils le font par l'intermédiaire du cinéma, et on va dire qu'on avait des formes majoritaires de cinéma qui existaient depuis 10, 15 ans à peu près, des formes qui sont nées avec les outils numériques, que j'ai vu un petit peu en retrait ou en sourdine cette année. Pendant 10, 15 ans, on avait des films qui étaient de plus en plus, vous savez, haptiques, sensuels, on va dire, qui essaient de retranscrire les sensations des protagonistes. J'ai moins trouvé ce cinéma-là, qui a été vraiment très majoritaire pendant quelques années, et j'ai eu l'impression de retrouver des formes plus classiques, d'une certaine façon, où on se mettait à réfléchir moins à la question de la subjectivité de la perception qu'à la question de l'individu pris dans son environnement, pris dans un flux social, dans le flux du monde et dans le flux de la façon dont le monde évolue. Et ça, c'est une nouvelle esthétique qui m'a paru extrêmement probante. L'autre chose, enfin, c'est la question des fantômes. Je trouvais que les fantômes étaient aussi extrêmement présents sur la croisette cette année, dans toutes les sélections. Par exemple, à la semaine de la critique, on a vu un film qui s'appelle Youthful Ghost, un film thaïlandais qui parle des disparus en Thaïlande en 2010. Et on a vraiment l'impression que les fantômes dans ce film, hein, qui rappellent parfois Happy Chat Pong, Vera Setakul, mais comme dans d'autres films, sont là pour venir peut-être hanter le présent et donner les armes aux enfants de combattre.
Enfin, il faut souligner également la relative absence hein, du cinéma américain au sein de ce palmarès cette année. Comment vous l'expliquez ?
Alors, il faut savoir qu'on avait 28 films à voir à la Caméra d'Or. Je n'ai pas pu voir tous les films de la compétition, bien que je sois arrivé à plus de 40 films maintenant. J'ai vu le film d'Ari Aster, j'ai vu le film de Kirsten Stewart, le film de Scarlett Johansson pour la Caméra d'Or. Je les ai trouvés un peu chichiteux les uns et les autres. Ari Aster fait un film qui est véritablement sur la folie américaine. Très impressionnant en termes esthétiques, en termes de mise en scène, en termes de propositions, mais un film très éparpillé, à mon avis totalement vampirisé par sa star Joaquin Phoenix. Par contre, j'ai vu un film extraordinaire, c'est le film The Mastermind de Kelly Reichardt, qui est revenu et qui propose ce qui paraît en première instance un exercice de style, c'est-à-dire qu'elle reprend dans les années un film qui ça se passe dans les années 70, c'est un film de braquage comme on en a vu des milliers. Et elle le traiterait à la Kelly Reichardt, ça veut dire sur un mode plus lo-fi, vous voyez, plus en sourdine, plus mélancolique. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un film véritablement existentiel sur la façon dont on peut se mettre dans des situations catastrophiques dans l'existence, peut-être guidé par son inconscient, par des désirs qu'on ne comprend pas, pour toujours en quête peut-être d'une liberté, et peut-être au prix même de son confort, de sa vie. Je trouve le film très existentiel, très passionnant et très beau.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Frédéric Mercier. Je rappelle que vous êtes critique pour la revue Positif et membre du jury de la Caméra d'Or lors de ce 78e Festival de Cannes. À la quinzaine cannoise succède une autre quinzaine, celle de Roland-Garros. Le tournoi de tennis débute aujourd'hui Porte d'Auteuil à Paris avec un hommage rendu à Raphaël Nadal, 14 fois vainqueur de ces internationaux de France de tennis, qui célèbrent cette année leur 100 ans, même si le stade de Roland-Garros a été construit en 1928. L'occasion de s'interroger, Charline Henry, sur l'évolution de l'image du tennis depuis un siècle.
Alors, il y a 100 ans, le tennis français, c'était les Mousquetaires, véritable fierté nationale. Patrick Clastre, historien spécialiste du sport.
La presse française est fière dans cet âge qui est celui des années 1920, où la France rêve d'être encore la première puissance du monde. Ils sont fiers de ces victoires et ça participe d'une sorte d'engouement national.
Un engouement pour des sportifs habillés tout en blanc, des sportifs évidemment à l'époque amateurs et qui font donc partie des plus riches. Côté tribune et côté court, ce sont les élites qui se rencontrent.
Jusqu'aux années 70, le public de Roland-Garros était un public assez mondain, très peu ouvert socialement. Maintenant, la véritable rupture, on peut dire que c'est la fin des années 1960, avec l'entrée dans l'ère télévisuelle.
La télévision s'installe donc dans les foyers. Pour la première fois, le tennis se démocratise. Les joueurs de tennis sont désormais professionnels, ils s'imposent sur les écrans.
Comme ces tournois sont scénarisés par la télévision, eh bien ça participe à l'engouement, bien évidemment. Bien sûr, le succès du tennis, il est porté par des stars, des champions qui sont héroïsés, starisés.
Mais la starification ne fait pas tout. Ces dernières années, le nombre de licenciés ne cesse de diminuer en France. Il faut dire que la pratique du tennis est concurrencée par des pratiques urbaines plus accessibles comme le paddle. Et l'image de ce sport très français a du mal à gagner les couches populaires.
Roland Garros qui pourrait être perturbé par les chauffeurs de taxi. Pour l'heure, pas de blocage prévu aujourd'hui, mais cela pourrait changer, prévient la Fédération nationale du taxi qui souhaite maintenir la pression après leur réunion hier au ministère des Transports. Le projet de réforme de la tarification des transports de patients au cœur de leur mécontentement sera examiné mardi, a promis le Premier ministre François Bayrou hier soir. La météo avec cet après-midi, une perturbation qui apporte toujours quelques pluies sur le nord du pays. Les éclaircies reviennent à l'arrière. Le ciel sera plus lumineux de l'Occitanie à la région PACA. Les températures affichent 18 à 22 degrés sur le nord, 20 à 28 degrés sur le sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Nicolas Sabat, Jean-Guy Lermège à la technique.